Vous écoutez France Culture, il est midi et demi. Le journal de la rédaction vous est présenté par Antoine Maret. Bonjour.
Bonjour. La présidentielle au Rwanda, le président sortant Paul Kagame est favori du scrutin. Il a réussi à redresser le pays économiquement au détriment des libertés publiques. Coup d'accélérateur dans l'affaire russe à Washington, la constitution d'un grand jury a été révélée hier par Wall Street Journal. C'est une mauvaise nouvelle de plus pour Donald Trump. Dans l'actualité française, le Conseil constitutionnel rejette la surveillance électronique des proches de personnes suspectées d'être en lien avec une activité terroriste. Les sages répondaient à une question prioritaire de constitutionnalité posée par plusieurs associations. Midi 45, la grande table d'été avec vous, Géraldine Mosna-Savoie.
Et oui, au programme du jazz, à l'occasion de deux festivals, c'est Jazz in Marciac et Écoute de Belle-Île en Mer. Et surtout, à l'occasion des 100 ans de ce genre musical, puisque le 26 février 1917 était enregistré pour la première fois sur 78 tours deux titres de jazz, de quoi se demander dans une première partie où nous mène un siècle après le jazz et de faire le portrait en seconde partie d'Émile Parisien, jeune saxophoniste virtuose.
On vous retrouve dans 14 minutes. De longues files d'attente se forment au Rwanda devant les bureaux de vote. Les électeurs sont appelés aux urnes pour la présidentielle. Le suspense est très relatif. Le président sortant Paul Kagame est le favori de cette élection. Celui qui préside le pays depuis 2000 a réussi à stabiliser son pays grâce à une croissance économique rapide. Bonjour Marie-France Abastado.
Bonjour.
Un bon bilan économique donc pour Paul Kagame, mais en ce qui concerne la liberté civile, c'est une autre histoire.
Et les 6 millions d'électeurs rwandais auront à en juger en se rendant aux urnes aujourd'hui pour élire leur prochain président. Mais les résultats de cette élection sont pratiquement connus d'avance et Paul Kagame sera sans doute réélu. Aux dernières élections en 2010, il avait obtenu un score de 93% et de 95% à celle de 2003. Ce sera donc son troisième mandat consécutif, autorisé par une modification de la Constitution en 2015, modification entérinée à 98,3% des voix. Aujourd'hui, Paul Kagame, soutenu par le Front patriotique rwandais, fera tout de même face dans les urnes à deux candidats, l'indépendant Philippe Payimana, ancien journaliste, et à Frank Habineza, président du Green Party, seul parti d'opposition. C'est d'ailleurs la première fois depuis le génocide qu'un parti d'opposition a le droit de participer à une campagne présidentielle. Trois autres candidats ont été rejetés début juillet par la commission électorale. Il faut dire que la première fois que le multipartisme a été autorisé au Rwanda depuis l'indépendance en 1962, c'était en 1991. De nombreuses formations se sont constituées en grande partie sur une base ethnique, ce qui a largement contribué au génocide par la suite. Un génocide qui, je le rappelle, a fait 800 000 morts. Les deux rivaux de Paul Kagame demandent donc plus d'ouverture politique, en particulier le président du Green Party, dont le vice-président a été assassiné en 2010 sans que l'affaire n'ait jamais été élucidée. De son côté, le président Paul Kagame pourrait faire valoir la stabilité retrouvée dont vous parliez tout à l'heure, stabilité retrouvée depuis son accession au pouvoir, une croissance économique de 8% et une couverture santé qui s'applique à tous les Rwandais. Les résultats provisoires ne devraient pas être connus avant samedi.
Merci Marie-France Abastado, vous en parliez, il y a eu ce terrible génocide en 94, 800 000 morts dans la population Tutsi, le Rwanda revient de loin, et pourtant c'est aujourd'hui un pays apaisé, à tel point qu'on parle du miracle rwandais. Je propose d'écouter Jean-François Dupaquier, il est historien et journaliste.
Le modèle rwandais, parce que je crois qu'on peut parler de modèle, est observé avec beaucoup d'attention dans toute une série de pays qui sont gangrénés par la corruption et l'incurie administrative et politique, comme la République démocratique du Congo, car on voit que dans un pays où la corruption a pratiquement disparu, l'État peut dégager d'énormes sommes pour le développement économique et pour les équipements. Je crois que c'est ce qui frappe beaucoup les pays africains et le visiteur quand il arrive à Kigali. Les rues sont impeccables. Il est interdit, comme en Suisse, de jeter un mégot par terre, même une allumette. Ce qui frappe aussi, c'est l'extraordinaire discipline des habitants de ce pays. Cette discipline, elle est orientée, on va dire, quasi exclusivement vers le développement économique, puisque l'idéal de Paul Kagame, le président de la République, c'est Singapour et il veut faire, il le dit d'ailleurs explicitement, du Rwanda un petit Singapour de l'Afrique. Le pays se développe très rapidement puisqu'on a des taux d'augmentation du PNB de l'ordre de 7 à 9% par an depuis une douzaine d'années.
Jean-François Dupaquier, qui est l'auteur de « Politique militaire, mercenaires français au Rwanda », chronique d'une désinformation publiée en 2014 aux éditions Cartala. Coup d'accélérateur dans l'affaire russe à Washington avec la constitution d'un grand jury révélé hier par le Wall Street Journal. C'est le procureur spécial Robert Mueller qui a pris cette décision dans le cadre de son enquête sur l'ingérence de Moscou dans l'élection présidentielle. Bonjour Marina Kabitène.
Bonjour.
La constitution de ce grand jury n'est pas une bonne nouvelle pour Donald Trump.
Non, car si le procureur Robert Mueller a constitué ce grand jury, c'est qu'il estime avoir assez d'éléments pour convaincre ses citoyens d'aller plus loin dans les investigations. Car dans le système américain, le procureur a besoin du feu vert de ce groupe pour demander certains documents, par exemple, ou des auditions. Selon Reuters, aujourd'hui, les premières assignations à comparaître ont même déjà été envoyées et sont liées à la rencontre entre Donald Trump Jr. et une avocate russe qui aurait promis des informations compromettantes sur Hillary Clinton pendant la campagne.
Mais ce grand jury, c'est aussi un coup stratégique dans la bataille que se livrent Donald Trump et ce procureur Robert Mueller.
Oui, qui a été nommé pour assurer l'indépendance totale des investigations et depuis, cet ancien directeur du FBI est la bête noire du président américain. En constituant ce grand jury, Robert Mueller assure aussi ses arrières, comme nous l'explique Jean-Éric Brana. Il est professeur à l'université Paris-Assas, spécialiste des États-Unis.
Donald Trump a clairement fait comprendre qu'il aimerait se débarrasser de cette enquête et donc du procureur indépendant. C'est vrai que le fait d'avoir constitué un grand jury et de lancer l'enquête de façon plus approfondie va rendre la tâche très difficile pour Donald Trump, car désormais, s'il se débarrasse de Robert Mueller, l'enquête sera là, le grand jury est en place, donc n'importe quel procureur ou juge pourrait reprendre cette affaire.
Robert Mueller a aussi le soutien du Sénat, où un projet de loi a été déposé hier pour le protéger, porté conjointement par un élu démocrate et un élu républicain. Le texte empêcherait un président de renvoyer un procureur spécial sans l'autorisation de plusieurs juges fédéraux.
Merci Marina Kabitène. La communauté lesbienne, gay, bi et trans en Haïti très inquiète. Le Sénat a voté en début de semaine une loi qui interdit le mariage gay. Mais ce texte va plus loin puisqu'il interdit aussi toute promotion de l'homosexualité au nom, je cite, de la protection de la famille. En réalité, il vise clairement la communauté homosexuelle, Lise Verbeck.
Le texte voté par les sénateurs interdit le mariage gay, renforçant ainsi le code civil haïtien qui autorise l'union uniquement entre un homme et une femme. Mais la loi va encore plus loin. L'un des articles interdit toute affirmation de l'homosexualité dans l'espace public. Pour Charles Ojeudi, président de l'association Courage qui lutte contre l'homophobie en Haïti, ce texte est, selon ses mots, un attentat contre la communauté LGBT et va stigmatiser encore plus une population déjà très fragilisée.
C'est une société qui est en crise. De crise institutionnelle, la corruption, il y a la justice est malade, les droits humains de manière générale ne sont pas respectés. Quand aux personnes LGBT se trouvent dans ces situations avec des lois très controversées qui peuvent être interprétées par n'importe quel magistrat et même par la population et que certains peuvent se faire justice. Et c'est pas possible.
Cette loi s'ajoute à un autre texte voté il y a un mois par les sénateurs sur le certificat de bonne vie et mœurs qui interdit aux homosexuels d'en posséder un.
On a besoin de certificats pour entrer à l'université. Les citoyens LGBTI ont besoin de certificats de bonne vie et mœurs pour entrer dans la police, dans l'armée, s'ils veulent se porter candidat. De certains boulots privés ou publics.
Lors du tremblement de terre il y a 7 ans, beaucoup d'Haïtiens très croyants et de politiques ont rendu responsables les homosexuels de la catastrophe. Ils auraient selon eux déclenché la colère de Dieu. Depuis, les agressions se sont multipliées dans le pays.
Et la loi doit encore être votée à l'Assemblée, mais l'issue du vote ne fait guère de doute. Pékin s'illustre une nouvelle fois en matière de censure d'Internet. Hier s'est déroulé un exercice de réaction en urgence, de fermeture de sites web. L'objectif, à l'approche du 19e congrès du Parti communiste à l'automne, c'est de régler les problèmes des sites web disséminant, je cite, des informations nocives. Bonjour Antoine Poitou.
Bonjour.
C'est une illustration supplémentaire de la mainmise de l'État chinois sur son réseau Internet domestique.
Oui, durant 3 heures jeudi, des sociétés de logiciels et des centres de données Internet chinois se sont entraînés à fermer en urgence des pages web et à fournir aux autorités les coordonnées, les adresses IP concernées. À quelques mois du grand congrès quinquennal, la plus haute instance du Parti communiste, Pékin veut renforcer la sécurité en ligne et étouffer les voix dissonantes. Un contrôle accru qui s'est vérifié également la semaine dernière Apple avait accepté de supprimer de ses boutiques en ligne les applications permettant de contourner les protections et les filtres des autorités chinoises. Alors cet exercice jeudi de fermeture express de sites internet va dans la droite ligne de mesures prises en juin pour renforcer la capacité de surveillance du web par l'administration chinoise du cyberespace, grand ordonnateur de la censure. Une nouvelle réglementation avait notamment vu le jour, obligeant les sites internet, les forums ou encore les médias sociaux à demander une autorisation avant toute publication concernant le gouvernement ou l'économie. Un pas de plus vers la cybersouveraineté prônée par le président Xi Jinping, où chaque État contrôlerait son Internet national. Une conception bien éloignée de l'actuelle gouvernance mondiale du web qui inclut entreprises et sociétés civiles. Alors pour rappel, l'ONU depuis 2012 considère l'accès à Internet comme un droit de l'homme.
Merci Antoine Poitot. Au Venezuela, l'opposant Antonio Ledezma est sorti de prison. Il avait été incarcéré en début de semaine. Il est désormais assigné à résidence. C'est ce qu'a annoncé son épouse ce matin sur Twitter. Midi 40 sur France Culture. Dans l'actualité française, le Conseil constitutionnel rejette la surveillance électronique des proches de personnes suspectées d'être en lien avec une activité terroriste. Les sages répondaient à une question prioritaire de constitutionnalité posée par plusieurs associations. Elles estiment que des pouvoirs élargis accordés aux services de renseignement par une loi de juillet 2016, ces pouvoirs violent le droit au respect de la vie privée, droit garanti par la Constitution. Bonjour Valentine Joubin.
Bonjour.
Les sages leur ont donc donné raison.
Oui, le Conseil constitutionnel a identifié deux risques majeurs. Le premier est celui d'une surveillance massive de la population. La loi du 10 juillet 2016 prévoyait en effet que ce soit tout l'entourage des fichiers S qui puisse être surveillé sur Internet. S'agissait-il seulement de la famille et des amis proches ou de toutes les connaissances, même les plus éloignées? Pour le Conseil constitutionnel, la loi était dangereuse car trop imprécise. Elle aurait dû définir un périmètre d'application, un nombre précis de personnes concernées. Autrement, ce sont des dizaines de milliers de personnes sans lien étroit avec la menace terroriste qui auraient pu être mises sous surveillance. L'autre risque pour les sages est celui de l'atteinte à la vie privée de cet entourage. La loi de renseignement mettait en place une surveillance électronique en temps réel, c'est-à-dire la possibilité de récupérer ce que l'on appelle les métadonnées, les identifiants, les adresses e-mail, les mots de passe, les sites consultés, en d'autres termes, toute la vie sociale d'un individu. Pour les associations de défense des libertés sur Internet, comme la Quadrature du Net, il y a ainsi plus de différence aujourd'hui entre le fait de récupérer des données de connexion et le fait d'écouter tout simplement des conversations téléphoniques. Une surveillance très importante qui ne se justifie pas pour des gens dont le lien avec le terrorisme n'est pas avéré, explique le Conseil constitutionnel. Mais la croisade des associations contre la loi renseignement n'est pas terminée. Elles ont déposé un nouveau recours contre la surveillance électronique à l'étranger. Cela concerne tout type de menaces, pas seulement terroristes. Elle permet aux services de renseignement d'intercepter des communications de citoyens français, à condition qu'ils utilisent des sites hébergés hors de France.
Merci Valentine Joubin. C'est une découverte assez incroyable qui a eu lieu par hasard à Marseille. Une carrière grecque datant du 5e siècle avant Jésus-Christ, lors de la construction d'un immeuble. Des habitants et des associations se sont mobilisés autour du chantier pour empêcher les bulldozers de détruire le site. Face à la mairie qui souhaite maintenir le projet immobilier, ils ont obtenu une première victoire, le classement de la carrière. Je propose d'écouter l'archéologue Alain Nicolas. Il est le fondateur du musée d'histoire de Marseille.
Pour faire un peu brutal, vous savez ce qui se passe avec Monsanto? Ben c'est le même genre, c'est-à-dire la vérité, on ne doit pas la dire, parce que si on dit que c'est un site extrêmement important, Vinci et Gaudin ne pourront pas construire leur immeuble, donc personne n'ose dire que c'est important. Or, cette découverte d'une carrière du 5e siècle avant Jésus-Christ, l'époque où Marseille était en train de se construire, est un témoignage extrêmement important. C'est le témoignage le plus ancien qu'on possède sur l'histoire de la ville, quoi, hein. Il faut préserver, bien évidemment, mais ce que la ministre s'est engagée apparemment à faire, c'est de protéger 600 mètres carrés. Ce qui est ridicule, parce que le site s'étend sur beaucoup plus que ça. Il faudrait poursuivre une politique de sondage archéologique pour voir jusqu'où s'étend le site, parce qu'il faut protéger tout l'ensemble.
Propos recueillis par Isabelle Dor à Marseille. Le parquet national financier ordonne une enquête préliminaire sur Michel Mercier, selon le journal Le Monde. L'ancien ministre est soupçonné de détournement de fonds publics pour avoir employé sa fille au Sénat. Par ailleurs, le président du Sénat, Gérard Larcher, a interdit aujourd'hui aujourd'hui une perquisition pourtant autorisée par le juge. Les réformes du Code du travail seront présentées le 31 août prochain, c'est ce qu'affirme Édouard Philippe dans une interview parue ce matin dans Le Parisien. Selon le Premier ministre, la concertation se poursuit pendant l'été pour finaliser le projet et les textes définitifs seront approuvés par le Conseil des ministres avant la fin de l'été. Cet après-midi, temps couvert voire pluvieux sur un quart nord-ouest, beau soleil sur le reste du pays. Les températures iront de 19 degrés à Cherbourg à 38 degrés à Nîmes. C'est la fin de cette édition préparée avec François-Charles Domergue. J'aurai le plaisir de vous retrouver si vous le souhaitez à 18h pour le prochain journal.